Christophe Delac en replay
sur radiolac.ch.
Le statoscope de Fabien et Carole.
Allez, on va parler de sport ce matin avec une étude qui vient d'être dévoilée, qui a été menée au Royaume-Uni concernant les salles de sport, les salles de fitness. Il y en a partout.
C'est vrai qu'il y en a partout. Ça pullule un petit peu partout. Ça nous donne bonne conscience avant d'attaquer l'été, hein, bien sûr. Il y en a même qui signent leurs meilleurs abonnements juste avant l'été, au
c'est
printemps,
ça.
Parce que forcément, on est tous pareils. On se dit, oh là 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 là, on est bientôt à la plage, c'est la merde.
Bon, on a tous essayé, on a tous fait le test de la salle de sport.
Ouais.
Le problème vraiment sur le long terme, c'est la motivation. C'est-à-dire que c'est de se dire, j'y vais 2-3 fois par semaine et puis garder ce rythme.
Tu commences bien au début.
Oui,
il y a toujours un début.
T'es plein de motivation.
Puis après, ça s'espace.
Oh, pff,
et puis après,
j'ai un peu la flemme, j'irai demain.
Après, t'as toujours une bonne excuse.
Ouais.
C'est la pluie, et puis après, c'est le froid.
Exactement.
Et puis après, c'est autre chose à faire.
Mais c'est exactement ça. Alors, il y a cette étude qui a été menée donc, sur notre rapport aux salles de sport et aux salles de fitness, parce que c'est vrai que quand tu habites en ville, que tu veux faire du sport, bah c'est quand même un peu le chemin le plus court finalement, le moyen le plus simple de faire du sport. Et bien attention, 68% des personnes interrogées déclarent ne pas aller dans une salle de sport, non pas par manque de motivation, non pas par peur de l'effort, mais par peur du jugement des autres.
Ah mais ça m'étonne pas, parce que le problème, et moi c'est ce que je reproche véritablement aux salles de sport, c'est que dans la salle de sport, t'es maté, t'es regardé. Et il y a beaucoup de gens qui fréquentent les salles de sport pour ce côté m'as-tu vu, quoi.
Mais c'est exactement ça.
Pour se montrer, en fait, au final.
Et par peur aussi d'être différent, parce que si tu vas dans une salle de sport que les gens y sont depuis très longtemps, bon, bah, ils ont peut-être un peu sculpté leur silhouette.
Toi,
t'arrives, t'as envie de...
Toi, quand t'arrives, t'as forcément un problème.
T'as besoin. Bah, voilà.
T'as soit le cul plat, Non, mais c'est vrai, tu as besoin.
Et c'est ça qui est difficile pour les personnes interrogées. Pour les 70%, en tous les cas, les quasiment 70% qui refusent d'aller en salle de sport, et bien c'est cette peur du regard, cette peur du jugement finalement, d'être un peu différent de celles et ceux qui sont là un peu régulièrement et qui eux y vont pour l'entretien, enfin voilà, sont déjà arrivés un petit peu à leurs objectifs. Et ce qui est assez surprenant, c'est que sur ces personnes interrogées, donc ça s'est passé au Royaume-Uni cette étude, 33% des interrogés disent que les publicités pour les salles de sport ne leur donnent absolument pas envie d'aller fréquenter une salle de sport. C'est-à-dire que la publicité, là, pour le coup, fait l'effet
inverse. Ouais. T'as pas envie de fréquenter la salle de sport.
Pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand tu regardes les affiches des salles de sport, c'est toujours des nanas ou des mecs hyper godés.
Mais c'est ça, en fait.
Et tu te dis, moi, j'y arriverai jamais.
Mais oui, c'est ça. Oui, c'est démotivateur.
Bah, exactement,
c'est ça.
Exactement.
Démotivant plutôt.
Démotivant,
oui, plutôt.
Peut-être.
Ouais.
Démotivateur, c'est un site internet.
Ceci dit, ça existe.
Voilà, donc cette étude assez intéressante finalement, où ça casse un petit peu les préjugés des salles de sport. Parce que moi, je me dis, il y a tellement de salles de sport, par exemple, à Genève, c'est qu'il doit y avoir énormément de gens qui. Sont intéressés par ce que proposent ces salles de sport, on se rend compte que trois quarts des gens ne veulent pas aller dans une salle de sport pour ces raisons, cette peur du jugement et du regard des autres.
Ça m'étonne pas, moi c'est un petit peu mon cas. Hein. Moi, les salles de sport, ça fait un petit moment que je n'y vais plus, en fait, je les fréquente plus. Et vous, justement, c'est la question qu'on vous pose au 079 918 3000, est-ce que vous fréquentez les salles de sport ? Si oui, dites-nous pourquoi, sinon dites-nous
aussi. On aimerait bien savoir. Sûr.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Watch the world. participate. We don't have to keep up with the city, 'cause it does, doesn't need us, honey.
Bonjour Sophie.
Alors j'ai envie de parler mariage aujourd'hui, c'est chouette non?
Pourquoi donc, vous n'êtes pas heureuse
hein? Si, tout à fait, au contraire, mais autour de moi, vous savez, tout n'est que divorce. Hein. Alors je me suis demandé, on peut annuler un mariage ou on doit forcément divorcer? Comment ça se passe?
Non, c'est une bonne question, vous avez raison Sophie, déjà ça divorce malheureusement à tour de bras, mais oui, on peut annuler un mariage.
Ah, et quelle est la différence?
La différence... Alors, pour faire très simple, parce qu'on est dans une journée un peu particulière,
oui.
Dans le divorce se prononce après qu'un mariage ait existé, donc on doit tenir compte de ce mariage et par exemple liquider le régime matrimonial, attribuer le logement familial ou partager la fameuse LPP, pour ne citer que ça.
Ouais.
L'annulation du mariage a un effet ex-tunc.
Alors, le ex-tunc, vous me l'avez déjà dit, mais je ne me souviens plus ce que c'est.
Alors, ex-tunc, parce que j'aime beaucoup parler latin,
ouais.
C'est un effet rétroactif. Quand on annule le mariage, c'est donc... comme si ce dernier n'avait jamais existé. On replace le couple, on replace les gens dans la situation antérieure
d'accord.
au mariage.
La bonne époque du célibat, quoi.
Exact.
Alors, pourquoi les gens ne choisissent pas l'annulation de mariage plutôt que le divorce?
Parce que pour annuler un mariage, il faut des conditions bien précises. Il y a des conditions absolues et relatives. Alors,
d'accord.
Typiquement, des conditions absolues, c'est lorsque la personne que vous épousez était déjà mariée, lorsque vous êtes incapable de discernement au moment du mariage, lorsque, par exemple, le mariage est prohibé pour des liens de parenté, parce que ça existe.
Ah,
ça,
oui.
C'est des... cause absolue.
D'accord.
Dans les causes relatives, il y a par exemple une incapacité passagère de discernement, ou encore quand vous a induit en erreur à épouser une personne que vous pensiez être la bonne personne, mais qu'elle n'était pas la bonne personne. Vous voyez.
Oh, ça souvent. Hein.
Prenons un exemple. Vous voyez, c'est une question philosophique.
Oui,
plutôt,
c'est vrai.
D'accord. Prenons un exemple, celui de l'incapacité de discernement de l'article 105, chiffre 2 du Code civil.
Ouais.
Alors attention, la capacité de discernement est présumée. Donc on part de l'idée que vous avez la capacité de discernement. Si vous soulevez cette incapacité, c'est à vous de la prouver. Ça relève des constatations de faits relatives à l'état psychique, à la nature ou aux effets d'éventuels troubles au point de savoir si et dans quelle mesure l'intéressé était capable d'apprécier les conséquences de ses actes et de s'opposer à des tentatives d'influence, par exemple.
Donc, on doit prouver de manière générale qu'il y a un élément ou une situation qui n'aurait empêché le mariage que si l'on l'avait justement évalué. Quoi.
Exactement, en quelque sorte, c'est ça. Que cela soit pour des éléments établis ou des éléments, disons, subjectifs, le mariage n'aurait pas été possible. Il faut donc le démontrer et ensuite prendre des conclusions pour demander à la justice de nous rétablir dans la situation qui était la nôtre avant le mariage. Argent, les affaires, etc. etc. En fait... même en matière de mariage, il vaut mieux tout vérifier avant.
Oui, ça c'est clair.
On est d'accord. Hein. Certains prennent cela pour de la méfiance. J'aime cette phrase qui dit « On ne connaît les gens que lors d'un divorce ou d'un décès ». Avant, c'est un peu une pièce de théâtre.
Mais comme on le dit chaque semaine, maître, restons
bon
et droit. Et vérifiez qui vous épousez quand même.
Qui vous épousez
faites
peut-être.
Faites gaffe, parce que ça peut... après vous avez signé. Quoi.
C'est toujours plus compliqué après.
Je sais. Bon, merci beaucoup. Toutes vos coordonnées, si on veut vous consulter pour une affaire, sont sur le podcast, que vous retrouvez sur radiolac.ch ou sur l'application. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Merci Sophie.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur la nouvelle application Radiolac.
But I don't care. They tell me.
Fabien et Carole.
Vous avez du mal à vous réveiller ce matin, eh bien voici peut-être un statoscope qui va changer, qui va révolutionner votre quotidien, les matins difficiles.
Bon Fabien, il y a deux teams hein, au réveil. Il y a ceux qui se précipitent hors du lit dès que le réveil sonne, hein, et apparemment tu n'en fais pas partie.
Clairement pas.
Et il y en a d'autres au contraire qui ont du mal à émerger de sous la couette en retardant aussi possible le réveil en snoozant. Ouais, et toi, tu snoozes.
Ah, mais moi, je snooze. Et puis, j'ai pris un réveil avec un gros bouton. Donc, tu sais,
j'ai la main qui appuie dessus.
Et je suis tranquille pour quelques minutes.
Tu repousses l'échéance. Mais est-ce une bonne idée? Les scientifiques répondent justement. Est-ce que se rendormir quelques minutes après le réveil, c'est bon? Eh bien, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une mauvaise chose, Fabien, ce que tu fais. Ouais. D'après une enquête, les individus qui bénéficient d'une demi-heure de sommeil supplémentaire semble en meilleure forme que leur père. Eh ouais, c'est un docteur à l'université de Stockholm qui l'affirme. Il affirme que des performances d'ailleurs supérieures ont été prouvées lors de tests cérébraux pour tous ceux qui snoozent, comme toi.
Ah mais alors, je suis assez surpris. Bon, une demi-heure, ça fait quand même beaucoup, parce que si moi je snooze pendant une demi-heure, j'arrive en retard à l'émission.
Et puis surtout, tu te fais taper par ta femme, je pense assommée.
T'as le réveil qui queen pendant une demi-heure,
En tout cas, les résultats indiquent qu'il n'y a aucune raison d'arrêter de roupiller le matin si vous aimez ça. En fait, ça pourrait même aider les personnes souffrant de somnolence matinale à être légèrement plus éveillées une fois levées. Apparemment, c'est plutôt bon. Il y a de meilleures performances intellectuelles qui sont à la clé. Tous les participants de la recherche scientifique ont réalisé en fait des tests portant sur leurs performances cognitives, tels que des exercices de mathématiques et des tests de mémoire. Et en fin de compte, il n'a pas été observé de différence significative dans la perception de la fatigue, ni dans le groupe des gens qui se réveillent vraiment franco quand le réveil sonne, et dans les groupes de personnes qui snoozaient. Donc au final, en fait, les chercheurs le disent, si vous avez besoin de snoozer, au final, c'est pas si mauvais que ça, vous pouvez continuer à snoozer.
Eh ben tant mieux, tu vois, tu m'as décomplexé ce matin, Carole, et je le ferai fièrement, désormais. Voilà. Hop, snooze.
Le meilleur de Lac, en replay, sur radiolac.ch.
Demander Marc-Antoine Bossard, mais c'est incroyable, il est là.
Il est là,
c'est bonjour notre Sophie. Vétérinaire. Bonjour Marc-Antoine, centre vétérinaire des sources à Genève, rue des sources, voilà. Alors attention, on a un chien à la maison, et puis on a laissé traîner la trousse, la petite pharmacie, vous savez, avec des paracétamol, peut-être la pilule contraceptive, voilà, avec plein de médicaments dedans,
puis
on s'est aperçu que le chien, il a joué, il s'est amusé, il a cru que c'était des bonbons ou des croquettes, et il en a croqué. Urgence, pas urgence, je dois m'inquiéter, qu'est-ce que je fais?
Oui, l'emballage d'un médicament éventré, déchiré, blister ouvert, des pilules à droite à gauche. Effectivement, on ne sait pas combien de pilules l'animal a ingéré. Donc oui, ça c'est une urgence, visite vétérinaire, si possible prendre la pharmacie éventrée avec.
Bien sûr.
Et puis je pense que dans ces cas-là, on ne prend pas de risque et le vétérinaire va tenter de faire vomir l'animal. Mmh. Et évidemment, c'est sûr que si on découvre ça le lendemain, ça pose des problèmes. Peut-être y a-t-il déjà des symptômes.
Ouais.
Mais s'il n'y a aucun symptôme, on découvre que des paquets de médicaments sont éventrés, on ne sait pas si oui, sinon, eh bien, on ne prend pas de risque, on va faire vomir l'animal. Et là, il n'y a que le vétérinaire qui peut faire ça.
En règle générale, par exemple, les médicaments anti-douleurs, qu'est-ce qu'on ne donne pas au chien? Qu'est-ce qui est grave pour le chien? Si je vous parle d'ibuprofène ou de paracétamol,
voilà. Bah, tout est une question de volume et de quantité de médicaments ingérés.
Oui, oui.
C'est clair que le chihuahua qui mange un paracétamol, si c'est un Saint-Bernard qui mange, je ne sais pas, un Dafalgan 500, bon, ça peut passer.
Ouais, ah oui.
Mais voilà, donc je pense que d'une manière générale, on ne va pas prendre de risques. Les conséquences de faire vomir l'animal sont plutôt modestes et donc on préfère s'éviter le risque. On le fait assez régulièrement lorsqu'il y a ingestion de chocolat. On le fait régulièrement quand il y a ingestion de raisins. On le fait régulièrement quand il y a ingestion de ces produits rodenticides, donc contre les souris, les rats, etc.
Oui.
Et ça arrive. En tout cas, trop fréquemment.
J'ai une question sur les antidouleurs que nous prenons. Si on voit que notre chien a un rhumatisme ou souffre, est-ce qu'on peut tout de suite donner ce genre d'antidouleur ou pas? Alors, ou est-ce que ce n'est pas conseillé? Alors, vous allez me dire qu'il faut consulter. Mais est-ce qu'un paracétamol ou un ibuprofène, ça peut le calmer?
Je pense que dans un premier temps, il est toujours possible d'atteindre un vétérinaire, en tout cas sur Genève, 24 heures sur 24.
C'est sûr.
Au moins poser la question.
Ouais, ouais, ouais.
Dire, voilà, quelle est la problématique, le poids du chien, la race, l'âge, et puis quels médicaments on compte donner. Il y a certains AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, que l'homme prend, que nous distribuons aussi à l'animal.
Ouais.
Tout est une question de concentration.
Merci. Quoi qu'il arrive, consultez toujours votre vétérinaire, au moins pour être sûr.
C'est
pour
plus
savoir.
Sûr.
C'est plus sûr, et c'est Marc-Antoine qui vous le dit, c'est normal, il est vétérinaire.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Maman ! Maman !
Hello, c'est Kit Ridulo sur Radio Lac. Retrouvez-moi sur Maman Pourquoi, le podcast éducatif et rigolo qui répond à tous les pourquoi.
Pourquoi ?
Et les comment de nos petits curieux.
Comment ?
Maman Pourquoi, c'est tous les mercredis sur vos plateformes préférées, sur le site et l'application Radio Lac.
Fabien, ça va ou bien ça, Fabien ?
Ce week-end, je suis tombé sur un classement réalisé par un site internet qui a demandé à ses lecteurs et internautes quelles étaient les personnes qu'ils admirent le plus. Alors attention, on ne parle pas de célébrités, mais plutôt de profils
de personnes.
Voilà, il y avait un seul mot d'ordre, donc pas de célébrité. Et puis, il fallait être un petit peu original dans ses réponses. Et ils ont réalisé le top 10, un petit peu des profils qui nous impressionnent le plus, que nous admirons le plus. À la 10e position, on retrouve par exemple ceux qui arrivent à manger des plats en sauce sans tâcher leur t-shirt blanc.
Oh,
pas mal.
Oui, sympa. Oh, ça oui.
Est-ce que tu es le genre de personne à toujours faire la petite tâche ?
Non,
t'as beau
non,
mettre,
non, par
t'as
contre,
beau protéger, non ?
J'embrasse ma mère qui donne toujours à manger à son t-shirt. Ouais.
Tu es donc à cet égard admirable, Carole, on peut te le dire.
Écoute, tu m'en vois ravie.
À la 9e position, ceux qui font du sport pour éponger une cuite.
Ah oui.
C'est les lendemains de fête. Eh ben, ah, ouais. Il y en a quelques-uns et j'en connais.
C'est courageux. Hein.
Capable d'aller
c'est
faire du sport. Pour, tu vois, se libérer un petit
c'est
peu
ça,
de la charge.
Se mettre au vert, ouais, hein, ouais. Transpirer autrement.
Pendant que nous, on est lamentablement en train de végéter dans le
c'est
canapé.
C'est d'autres libèrent l'alcool.
Exactement.
Comme ils peuvent.
À la 8e position, les gens qui ont vraiment réalisé leur rêve de gosse. Et ça, c'est quand tu revois des gens que tu as côtoyés, par exemple, étant enfant ou adolescent, ouais, à l'école, ouais, au collège, par exemple, et que tu te rends compte qu'ils avaient un rêve à l'époque et qu'ils l'ont réalisé.
Ça, c'est chouette.
Et là,
bravo,
tu te remets un petit peu en question.
Là, tu te dis, oh, et pourquoi pas moi ?
Ouais.
Hein ?
Moi, je voulais être médecin urgentiste.
Ah oui.
Voilà, j'ai fait animateur radio.
Je voulais être vétérinaire, tu vois. J'étais animatrice radio.
Bon, à la 7e position, ceux qui font la vaisselle tout de suite après avoir mangé. Et moi, c'est vrai que j'admire ces personnes. Alors, il y a la solution, évidemment, tu mets dans le lave-vaisselle. On parle pas de la petite vaisselle, assiette, couvert et tout. Mais plutôt, tu vois, quand tu fais un gros repas.
Bah voilà. Oui, les grosses casseroles, etc. Ouais. Ça. Moi, je suis de ceci. Hein.
Ah ouais.
Ah oui, non, mais clairement, je ne quitte pas la cuisine sans avoir fait la vaisselle.
Tu vas biffer toutes les cases, j'ai l'impression.
Ah ouais, bah écoute.
Sixième position, il y a ceux qui rient à une blague que tu racontes, même quand cette blague est nulle et même quand tu la racontes mal.
Le bon public.
Le bon public.
Le bon public, ouais.
Ça, j'admire.
Ok.
Moi, j'ai un petit peu du mal.
Ouais,
je me force, hein, mais ça se voit malheureusement.
Ouais, ouais.
À la cinquième position, il y a les cyclistes qui s'arrêtent au feu rouge. Bravo! Alors non, j'ai dit bravo. Il n'y en a pas beaucoup.
Et franchement, bravo. C'est bien normal ce que vous faites, mais on salue.
À la quatrième position, et je sais que t'en fais partie, les gens qui savent bricoler, qui sont capables de réparer un peu tout et n'importe quoi dans la maison. T'es bricoleuse.
Je suis un petit peu bricoleuse, pas trop non plus. Hein. Enfin, les lourdes tâches, c'est pas possible. Mais ouais, je bricole.
Tu sais te débrouiller.
Tu sais
changer une ampoule.
Je sais changer une ampoule.
À la troisième position de ce classement des profils qui nous admire,
qui suscite notre admiration,
il y a les gens qui ont toujours leur petit bento debout, famille, tu sais, bien préparé, bien organisé, ils ont fait le petit plat la veille, tout ça. Moi, je trouve ça fabuleux.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez fabuleux, ouais. Parce que certains le font tous les jours.
Mais oui.
Tous les jours.
Et ça demande une sacrée organisation. Moi, je suis incapable de savoir ce que je vais manger dans 5 minutes, tu vois, quand t'approches l'heure du repas.
Ouais.
Donc, organiser pour le lendemain, moi, je dis franchement, bravo. À la deuxième position, il y a les gens qui savent faire plein de trucs à la fois. Et ça, c'est vrai que moi, je leur tire mon chapeau parce que comme les hommes, hein, c'est vrai que les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois, mais tu sais, il y a des gens qui sont capables de tout faire.
Ouais, je vois, ouais.
Quand on est maman, c'est un petit peu ça. Hein.
Ah, moi, je suis un mec là-dessus. Je sais pas faire grand. Bon, alors après, je sais pas tout faire à la fois. C'est pas possible, même si je suis maman. Non, moi, il faut vraiment. Je m'y colle, voilà, c'est tâche après tâche.
Et
pas
puis,
possible, sinon.
À la première position, moi, j'avoue, vénérer les gens qui sont capables de se souvenir des dates d'anniversaire.
Ouais.
Car j'en suis absolument incapable, vraiment. Et il y a des personnes qui sont capables de se souvenir de toutes les dates. Béatrice, par exemple, dans l'équipe, alors elle est incroyable. Elle se souvient de toutes les dates d'anniversaire de tout le monde.
C'est un livre.
Ouais.
C'est un livre, clairement. Ouais. Un livre à date, effectivement.
Voilà.
Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Les dates d'anniversaire, c'est pas évident, hein, quand même.
Bah non. Et
moi, j'essaye de me souvenir de tout, mais il y en a forcément qui passent à la trappe.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur la nouvelle application Radio Lac.
Le vétérinaire Marc-Antoine Bossart m'accompagne tous les lundis sur Radio Lac. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour Sophie.
Au centre vétérinaire des sources à Genève. Alors un sujet assez grave aujourd'hui, le cas particulier où il y a une décision fatale à prendre, en d'autres termes l'euthanasie de l'animal. Ça vous est voilà. déjà arrivé?
Oui.
Oui, voilà. Donc le maître veut euthanasier parce qu'il a ses raisons particulières, bien sûr. Oui. Et le professionnel doit réagir. Mais comment doit-il
Alors
réagir?
Ça, c'est un cas de figure qui est différent d'un animal qui est en fin de
oui,
vie,
oui,
qui
sûr.
Est dans une souffrance intense. Mm-hmm. Le cas d'un animal qui présente une pathologie qui pourrait être corrigée, soignée, soutenue. Mm-hmm. Mais le maître n'a pas les moyens. Ou
ouais.
le maître a tout simplement pas l'opportunité
ouais.
de pratiquer ses soins. Pensons par exemple à un diabète félin.
Ouais.
Eh bien, il faut injecter
tous
de
les
l'insuline
jours, ouais.
matin, soir, à des mmh. heures régulières,
ouais.
7 jours, 365 jours, etc. Donc, ouais. quand la personne est en face de vous, vit seule avec son animal,
mmh.
travaille,
et n'a personne.
Et n'a personne. Et tout d'un coup, après discussion, le propriétaire dit non,
on arrête
euthanasier ce chat. Ouais. Quelle est la position juste, judicieuse du professionnel vis-à-vis de cette situation inextricable?
Mmh.
Est-ce que dans l'éthique du vétérinaire dit non, je ne peux pas euthanasier un chat mmh. qu'on pourrait
oui.
soigner
oui.
Ou bien est-ce qu'il va accéder à cette demande qui est probablement pas posée, lancée par hasard ou
oui.
Sur un coup de tête.
Oui.
C'est souvent mûrement réfléchi. Comment est-ce qu'on peut accompagner dans cette décision un maître, une maîtresse pour faire un tel geste de retirer la vie d'un être vivant.
Oui, mais...
Ça, c'est vraiment laissé à la décision de chacun parce que ça touche le cœur, les tripes.
Oui.
Et l'éthique.
Ma question est toute bête. On est propriétaire de notre animal. Si on prend la décision de mettre fin à sa vie, est-ce qu'on n'est pas un peu décisionnaire dans l'histoire, quoi? C'est ça que je veux dire par rapport aux professionnels de santé et aux professionnels vétérinaires.
Sophie, vous avez absolument raison.
Question toute bête que tout le monde doit se poser en nous écoutant. Hein.
Oui, mais je suis sûr qu'il y a une partie de vos auditrices,
oui.
auditeurs qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce vétérinaire qui
mais
accède
non.
à cette demande?
Non, non.
il est à flinguer.
Mais non, on ne va pas vous juger.
Est-ce que tout d'un coup, je vais avoir une brouette de fumier devant mon
non,
cabinet.
Non, non.
Enfin,
non,
oui,
mais la question est de savoir si le chat en question il est effectivement fichu parce que le maître ou la maîtresse n'a aucune possibilité de s'en occuper et de faire ses injections, dans ce cas-là précis, est-ce
oui.
qu'il ne va pas laisser mourir son chat et s'en débarrasser autrement plutôt que de lui offrir une vie, une fin de vie confortable, enfin on va dire confortable, pardon, le mot est mal choisi, mais tranquille entre
tout
ses mains et vos mains.
Mm-hmm.
C'est ça que je veux dire.
Oui, oui, bah, c'est une pesée d'intérêt.
Mais ouais.
Et puis, par moment, on est obligé de mettre nos sentiments, notre éthique un peu de côté pour aller auprès du maître ou de la maîtresse qui prend une décision mais gravissime.
Ouais.
Et souvent, cette décision n'est pas prise comme ça, comme une lancée
ouais, bien
de pièce.
Sûr, bien sûr. En tout cas, ça fait réfléchir. Vous pouvez réagir, bien sûr, sur le WhatsApp de Radio Lac 079 91 83000. C'est une chronique conscience aujourd'hui, Marc-Antoine. Hein.
Fait,
c'est
oui.
vrai.
Oui.
Mais la semaine prochaine, vous nous proposez un truc un peu plus gay, quand même.
Je vais y réfléchir.
Merci beaucoup. Vous êtes à retrouver en podcast radiolac.ch. Le débat est donc ouvert, on pourra revenir dessus. N'hésitez pas, et puis je vous dis à la semaine prochaine.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur radiolac.ch. Think of you.
l'horoscope de Fabien et Carole.
Ce matin, l'étude qui nous intéresse, c'est la plus grande étude jamais menée au monde sur les boissons sucrées, Carole.
Ah oui, quand même, ouais. Grosse étude donc.
Étude qui a été menée et publiée dans la revue Nature Communication. C'est très sérieux, ça a été mené dans 185 pays cette étude.
Ah, c'est quand même pas mal.
Et notamment chez nous en Suisse, au CHUV, au HUG également. Donc c'est vraiment une étude très large qui avait pour but de un petit peu de faire l'état des lieux en ce qui concerne la consommation de boissons sucré dans le monde entier. Tu dirais quoi, toi ? Tu dirais que ça augmente, ça baisse, ça stagne ?
Moi, je dirais que les gens font quand même un petit peu de plus en plus attention quand même, mais je trouve qu'il y a des espèces d'ovnis qui arrivent comme les bubble tea, tu vois, c'est tout nouveau, mais en fait, tu en as parlé la dernière fois, c'est bourré de sucre, c'est encore plus sucré, je crois, qu'un simple coca qui est déjà bien sucré. Quand même.
Et tu mets le doigt un peu sur quelque chose qui pose problème, ce sont toutes ces nouvelles boissons qui n'existaient pas forcément avant. Aujourd'hui, il y a pléthore de possibilités, pléthore de choix en ce qui concerne les boissons sucrées. Alors c'est vrai que on associe souvent boisson sucrée à la boisson tu vois gazéifiée type cola, voilà, soda.
Le soda gazeux.
Voilà, donc on associe le sucre à ces boissons-là, sauf que le sucre on le retrouve dans plein de boissons, même dans des boissons qui paraissent plutôt anodines comme les thés froids, les choses comme ça, sauf que bon, si vous avez déjà goûté du thé froid sans sucre,
si vous aimez le thé froid, en toute logique, c'est qu'il est bien sucré.
Voilà, exactement. Eh bien, cette étude s'est intéressée à la consommation de centaines de milliers de personnes sur plusieurs décennies. Elle a été menée, je le disais, dans 185 pays entre 1990 et 2018. Donc, tu vois, ça couvre un large spectre. 1990, moi, j'avais 10 ans, tu avais quelques années de moins. Donc,
j'avais 6 ans.
Tu te souviens un petit peu de ce que tu buvais en termes de soda, beaucoup, ou tes parents faisaient attention ?
À la maison, c'était toujours du sirop. On faisait super attention. Bon. Et les boissons gazeuses, il y en avait très peu.
Bon, mais sirop quand même, c'est aussi
le sucré.
Le sirop,
on est d'accord. Mais c'était notre seul, on va dire, seul petit plaisir.
Ouais. Eh bien, sache qu'entre 1900... c'est ça, Cosette, ça fait très Cosette. Entre 1990 et 2018, la consommation de boissons sucrées dans le monde a augmenté de 16%. Et j'avoue que je suis hyper surpris. Moi, j'avais quand même tendance à penser qu'on consommait moins de boissons sucrées. On fait attention, on sait que c'est très mauvais pour plein de raisons, mais malgré ça, ça continue d'augmenter.
Oui, parce que je pense, comme tu l'as dit, qu'il y a de plus en plus de boissons sucrées et même les boissons qui scandent véritablement une espèce de mise au vert, elles sont de toute façon sucrées, je pense.
Il faut lire les étiquettes, ne surtout pas croire ce que les marques vous font imaginer par le design ou ces choses-là. Alors, il faut savoir qu'il y a des populations qui sont beaucoup plus concernées, notamment les 20-24 ans, qui boivent en moyenne 3 fois plus de boissons sucrées que les seniors, par exemple.
Quand même,
tu vois, donc voilà, on est vraiment sur les jeunes. Et alors, il y a une chose qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est les pays qui consomment ces boissons sucrées. Avant, c'était essentiellement les pays riches, et maintenant ils observent une hausse énorme aussi dans les pays moins développés, parce que les marques l'ont bien compris, c'est un enjeu commercial très important, et ce sont généralement dans ces pays-là qui peuvent se développer encore énormément.
Voilà. Buvez de l'eau, la meilleure boisson du monde. Hein.
C'est bon l'eau.
L'eau. Toute la nuit.
Réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Cette pluie. que moi qu'ils t'attendent. Je n'ai pas vraiment le choix, mais ne m'oublie pas. Sway, I'll be swayed by your side, by your side. Girl, I'll be there by your side, by your side, by your side.
Sur Radio Lac.
C'est l'heure de la naturopathie avec Christine Denis, comme tous les mardis sur Radio Lac. Il suffit de demander. Bonjour Christine.
Bonjour Sophie.
On fait un bilan sur la thyroïde là, parce
oui,
que
voilà.
On s'était quitté avant les vacances sur la thyroïde et là vous voulez revenir
voilà,
dessus
voilà.
Parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations. Et vous avez eu beaucoup de questions de la part d'auditrices, d'auditeurs et de patients.
Voilà, exactement. Donc comme expliqué dans la chronique Naturo du 18 et 25 juin,
oui.
L'insuffisance thyroïdienne, en fait, même modérée mais non traitée, en fait, peut vraiment avoir un impact vraiment très grand sur notre santé. Voilà.
Ouais.
Donc, chaque moment de notre vie où, en fait, où on reste dans un état d'hypothyroïdie, eh bien, on va se sentir de moins en moins en forme, de plus en plus fatigué, de moins de bonne humeur. Voilà.
Ouais,
donc,
c'est
vraiment important de faire un bilan. Alors, parce que l'hypothyroïdien, il ne se sent pas bien le matin, la personne hypothyroïdienne.
Ouais.
Donc, il y a un lever difficile. Bon, c'est vrai que le sang, le matin, au repos, circule moins bien, il y a moins d'oxygénation. Et ça, disons que ça aggrave les effets dus à la carence thyroïdienne.
Mmh.
Et puis, une somnolence, en fait, au repos et envie excessive de dormir.
Mmh.
Donc, il y a cette fatigue-dépression plutôt le matin. Et puis, bon, des gonflements, des mollets, des mains, visage bouffi, poche sous les yeux, tendance à l'obésité et difficulté à perdre du poids. Voilà,
ouais,
ça c'est.
Ouais.
Et puis, frilosité, même en été.
Ah oui.
Et douleurs musculaires diffuses, les cheveux secs, fragilisés, la peau souvent pâle, sèche et granuleuse. Donc voilà, c'est là où le bilan thyroïdien est vraiment justifié.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va doser T3, T4, donc les hormones et la TSH,
ouais.
Et aussi les anticorps antithyroïdiens pour déceler s'il y a une maladie auto-immune. Alors, dans le cas de hypo, ça sera Hashimoto, qui est quand même très souvent.
C'est moi ça, je l'ai.
Voilà,
c'est génial.
Voilà, donc là, c'est voilà, et donc il y a aussi l'iode qui est indispensable à doser, qui est souvent négligé, dont l'iode urinaire, parce que l'iode est vraiment importante par rapport au fonctionnement de la thyroïde. Donc, alors selon les résultats, donc bien sûr, il y a une ordonnance du médecin si vraiment il y a des règlements. Donc le médecin, il va définir la dose optimale d'hormones thyroïdiennes à donner. Et puis en naturopathie, donc en accompagnement, on a quand même des choses à faire. Donc moi je renvoie à la rubrique du 25 juin, mais ce que je voulais un peu donner, insister sur le fait que c'est important de faire ce bilan. Alors parce que les causes de l'hypothyroïdie, elles sont multiples,
oui.
Mais donc c'est important de rechercher quand même ces causes. Et donc une des causes, c'est un foie paresseux,
oui.
Donc parce que c'est dans le foie que la T4 se convertit en T3, les hormones féminines, œstrogènes, oraux, comme la pilule contraceptive, les traitements substitutifs hormonaux pour la ménopause, et puis des carences en T3, en iode, en fer et en sélénium, et puis des carences en hormones androgènes et l'hormone de croissance,
oui.
La mélatonine, et ça c'est assez fréquent après 40 ans, voilà, ces carences-là. Et puis l'activité physique trop intense, ça peut...
Ah, c'est bizarre.
et le stress chronique. Voilà.
Ah, c'est bizarre, c'est... l'activité physique trop intense, c'est bizarre.
Trop intense.
Ouais, parce voilà. qu'en fait, on pourrait penser que ça régule tout et que ça aide, mais
oui,
non.
Ben voilà, c'est tout dans D'accord. l'équilibre, comme toujours.
Comme toujours, voilà. voilà. On continue de parler de la thyroïde la semaine prochaine.
Voilà, la semaine prochaine, voilà.
Merci beaucoup, c'était Christine Denis, que vous pouvez consulter à Founet et à Versoix, bien sûr, coordonnées sur le podcast, sur la page. Il suffit de demander la semaine prochaine.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur la nouvelle application Radio Lac.
Too far to say goodbye. The sound of my heart tells me there's still hope. I got lost in the plane overnight. With all these words I see, do you feel any?
Paléo. Cette semaine, écoutez Radio Lac et gagnez vos places pour assister au live du groupe qui a marqué toute une génération. Texas, le 23 juillet au Paléo Festival de Nyon. Concert complet. Sauf pour les auditeurs de Radio Lac.